RMC, entre les poteaux,
Winnie Claret.
Salut tout le monde, entre les poteaux spécial Long Live the King cette semaine. On parle du rugby anglais qui n'est pas mort malgré la crise qu'il traverse depuis 4 ans. Des clubs en faillite, des joueurs en exode et pourtant deux écuries d'outre-Manche se sont qualifiées en demi-finale de la Coupe des Champions, Northampton et les Harlequins. Alors comment expliquer ce retour en force de nos rivaux préférés? On a fait appel à un expert du rugby de la couronne. Notre ami du Daily Telegraph, Charles Richardson, est avec nous. On s'appuiera aussi sur le plus british des rugbymen amateurs français, Pierre Thévenet, qui a joué à l'université d'Essex pendant son année d'Erasmus. Allez, ça promet entre les poteaux. Épisode 207, c'est parti.
Une pluie d'essais à Chabandelmas. Et la réponse du berger à la bergère alors que l'UBB était repassé, était passé devant pour la première fois et mené 36 à 35. La machine anglaise, eh bien, n'est pas morte. Il y va, il y va, il y va. Et il marque un sixième essai, peut-être libérateur dans un match de dingue. Ici, les supporters qui sont debout. Ce sera du gâteau pour la transformation du capitaine Maxi Bloukou à venir.
Voilà, ça, je sens que ça va être une piquette.
Oh, et ça ne passe pas, la transformation qui ne passe pas de Maxi Bloukou. Et les Anglais qui restent devant 42 à 41. La qualification à l'instant, ici en terre girondine à Chabandelmas, des Harlequins qui s'imposent au terme d'un match complètement fou face à l'UBB, le score final 42 à 41.
It was incredible when I read that. I think like there is inside you resilience, you know.
Et voilà donc notre hymne anglais qui a résonné, ou en tout cas on y a pensé fort hein, dans les stades et notamment les stades français. Vous l'entendiez, Chabandelmas, c'est cette défaite sur le fil des Bordelais de l'Union Bordeaux-Bègles face aux Harlequins. Et on va tout de suite dire bonjour à nos deux acolytes, à nos deux poteaux du jour. Salut Pierre.
Salut Winnie.
Et hello Charles.
Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour de Londres.
Mais merci d'être là à l'heure anglaise, merci à toi Pierre. Charles, tu es donc journaliste rugby au Daily Telegraph. Comment ça va de suivre le rugby et l'actualité du rugby anglais en ce moment ?
Il n'y a pas un moment tranquille en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe tout le temps, toujours. C'est très occupé après l'amélioration de l'équipe anglaise dans les Six Nations. Et maintenant, comme on a vu le week-end dernier, la réussite des équipes anglaises dans les Champions Cup.
Ouais, voilà, bah justement, tu l'as suivi comme on l'a suivi hein, ce week-end de quart de finale de Champions Cup. Et on va rappeler hein, rapidement les résultats. Alors, des clubs anglais, on parlera en fin de podcast, on fera un petit tour des stades et des résultats des quarts de finale. Mais d'abord, les Harlequins, on le disait, donc, qui ont gagné sur le fil d'un petit point 42 à 41 à Chabandelmas face à l'Union Bordeaux-Bègles. On a aussi vu Northampton s'imposer à la maison et alors largement, hein, 9 essais à 3, 59 à 22 face au Bougou. Bulls de Pretoria, des Bulls certes diminués, hein, on a voilà une équipe largement remaniée qui s'est présentée à Northampton. Et puis bon bah là cette fois la défaite d'Exeter à Toulouse, elle était plutôt prévue sur le papier, on en reparlera aussi en fin de podcast. 64 à 26, Exeter qui a fait douter Toulouse en première mi-temps, mais Toulouse qui a complètement fait exploser les Chiefs sur la seconde partie. Voilà donc pour la Champions Cup. Peut-être aussi un mot du challenge européen parce que là aussi on va retrouver un club anglais, hein, Gloucester en demi-finale après sa victoire contre les Gallois des Ospreys 23 à 13. Voilà donc pour le bilan du week-end du côté des Anglais. Peut-être expliquer quand même que ce constat-là, Charles, Pierre, d'avoir deux équipes en demi-finale de Champions Cup, d'avoir une équipe en demi-finale du Challenge européen, bah, c'est pas forcément évident quand on a un sport qui traverse une crise. Un rappel peut-être de ton côté, Pierre, c'est une crise et on a eu notamment des exemples très concrets. C'est quand même quatre clubs qui ont fait faillite en l'espace d'une année.
Ouais, c'est une crise qui est liée bien sûr au Covid. Entre 2017 et 2023, il y a eu 300 millions de livres de pertes cumulées pour les clubs anglais. Ça fait 340 millions d'euros, des gros problèmes financiers. Il y a eu des prêts accordés par le gouvernement jusqu'à ce que ce ne soit plus supportable pour certains clubs, à commencer par Worcester, donc premier club liquidé en début de saison dernière. Le fisc leur réclamait 7 millions d'euros. Dans la foulée, les Wasps, double champion d'Europe, ont connu le même sort. Ils n'ont pas toujours pas réussi à rebondir. Ils cherchent à retrouver retrouver un stade, à retrouver de la compétition. Et en juin de la même année, les London Irish, 5e à l'issue de la saison régulière, là non plus n'avaient pas assez de fiabilité financière et ont donc dû déposer le bilan. On a eu un championnat remodelé, on est passé de 13 équipes à 10 équipes pour la saison en cours.
Voilà, alors Charles, comment toi tu as suivi ça? Comment en Angleterre on a vécu ces faillites de clubs et parmi ces clubs quand même des institutions du rugby anglais?
Oui, c'était très triste et c'était une période très inquiétante pour le rugby anglais, mais je crois qu'on est en train de voir beaucoup de lumière maintenant. On va avoir des améliorations. Oui, exactement. Après la disparition de ces trois clubs, il y avait plein de joueurs qui étaient disponibles, qui avaient besoin d'un contrat. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était que les autres clubs, les 10 clubs qui restent, ont signé ces joueurs. Et maintenant, on a vu que les dix équipes dans le Premiership sont améliorées le profondeur de leur effectif. Ils ont un plus profond effectif avec des joueurs ils ont capturé les joueurs qui ont été licenciés par ces trois clubs qui ont disparu pendant la Covid.
Tu parles quand même de cette fin de période sombre pour le championnat anglais, mais ça reste un championnat où beaucoup de clubs sont endettés dans cette première chip. Sur quoi repose l'économie du championnat anglais? Pourquoi il y a tant de dettes pour ces clubs professionnels anglais?
C'est à cause de Covid avec des empreintes du gouvernement à travers de la crise de Covid, mais aussi c'est que les clubs anglais ne génèrent assez d'argent. Ils dépensent plus d'argent qu'ils ont en fait. Mais je crois qu'ils sont en train de devenir plus viables financièrement, mais en ce moment ils n'ont pas pu faire ça.
Alors justement, Charles, pour qu'on comprenne bien, parce que la crise du Covid, tous les championnats de rugby l'ont traversé, pourquoi le rugby anglais fait partie de ces championnats qui ont tant souffert? Quand on voit que dans le top 14, on n'a pas le même endettement que les clubs anglais. Il y avait déjà quelque chose qui était pas tenable et un peu bancal, non, quelque part dans le rugby anglais?
Ouais, c'est parce que les finances des équipes anglaises étaient fragiles avant de Covid, néanmoins. Mais néanmoins, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, le cap salaire.
Le salary cap, oui, le plafond de la masse salariale, oui.
Oui, était trop haut avant de Covid et il a baissé. À 5 millions de livres, mais ça va augmenter encore une fois la saison prochaine, mais c'est un peu, il y a des clubs anglais qui s'inquiètent,
justement s'inquiéter. On prévoyait d'évoquer quand même ce salary cap, ce plafond de la masse salariale, parce que on sait que ça fait partie de l'explication aussi de la fuite de certains joueurs anglais vers le top 14, puisque vous avez déjà instauré un salary cap en 1999, 11 ans avant celui du top 14, ce qui avait déjà généré un premier appel d'air des joueurs anglais vers le championnat français. Et puis de toute façon, il a toujours été plus élevé en France qu'en Angleterre. C'est-à-dire que tu parles des 5 millions de livres, donc on est autour des 6 millions d'euros en Angleterre, là où nous, on est à 10,7 millions d'euros pour cette saison 2023-2024. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez de près? Est-ce qu'effectivement, ça fait souffrir le championnat anglais de voir que vous êtes obligé de restreindre ce salary cap, d'essayer de le geler, de le baisser comme vous pouvez, parce qu'en fait, vous n'avez pas la solidité financière, mais du coup, vous n'avez pas non plus vos joueurs stars qui restent dans votre championnat.
C'est une question complexe, en fait. Je crois qu'il ne faut pas augmenter le salary cap sans que les clubs n'ont pas les fonds pour payer ces joueurs, parce que si on augmente le salary cap trop vite, il y aura une autre disparition des clubs.
Ouais.
Mais ces joueurs qui sont en train de partir en France, ils approchent la fin de leur carrière. Il y aura toujours plus d'argent dans le jeu français qu'en anglais, parce que les clubs sont basés à leur communauté. Il y a plus d'un lien entre le club et la ville et la communauté et les
partenaires.
Les partenaires locaux, oui, exactement. Mais ça n'existe pas en Angleterre. Alors, ils doivent trouver plus de chemins assez difficile à trouver des fonds.
Oui.
Mais c'est pas inquiétant que Manu Tulangi, que Carl Sinclair, que les joueurs assez âgés partent en France. Les joueurs comme Jack Willis, Henry Arundel. Oui,
c'était à cause.
Oui, exactement. Ils sont des cases spécifiques. En fait, Joe Marchand, il a été exclu de l'équipe anglaise, de la sélection internationale.
D'accord.
Par Eddie Jones, l'ancien entraîneur de l'Angleterre. Alors, il a décidé de partir en France. Mais maintenant, en fait, Steve Borthwick souhaite qu'il joue pour l'équipe anglaise. So, c'est un peu...
Alors, comment c'est possible, ça?
C'est pas possible, en fait. Mais Steve Borthwick veut qu'il rentre.
D'accord.
Mais il ne peut pas.
Est-ce que cette règle, elle pourrait évoluer, justement, cette règle qui interdit les joueurs anglais à ne pas jouer, enfin, qui interdit les joueurs anglais à jouer pour la sélection s'ils ne jouent pas dans le championnat anglais? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait évoluer ou, au contraire, pour protéger le championnat anglais, on est obligé de maintenir cette règle?
Le championnat, comme on a discuté, le championnat anglais a souffert beaucoup depuis 4 ans. Il faut protéger le championnat anglais. Il ne faut pas créer une règle avec laquelle les joueurs qui sont basés à l'étranger peuvent jouer pour l'équipe anglaise, je crois, parce que ça va détruire plus le championnat anglais.
Alors, on parle là de la fuite, de l'exode des joueurs, qui est une conséquence des difficultés financières du rugby anglais. Mais d'ailleurs, c'est pas la première fois. On se rappelle qu'après la crise économique de 2008, il y avait déjà eu un appel d'air. On avait des joueurs comme l'ouvreur Andy Good, par exemple, qui avait quitté Leicester pour Brive. Il y en a d'autres qui ont suivi le pas, parce qu'à ce moment-là, pareil, le rugby anglais avait dû geler son plafond de masse salariale à une époque où ça n'existait pas en France. Et donc, à nouveau, des joueurs qui étaient venus peut-être voir l'Eldorado français plutôt que de rester en Angleterre. Au-delà de cette conséquence-là, pour revenir un petit peu aux explications de la crise financière et à tous les tenants et aboutissants, il y a quand même une chose très importante, puisque c'est sur ça que reposent les championnats, pas que celui d'Angleterre, mais tous les championnats de rugby, ce sont les droits de retransmission, les droits de télévision. Vous, votre diffuseur en Angleterre, c'est BT Sport, c'est cette chaîne-là. Comment on arrive à financer avec une chaîne qui n'est pas contente, parce qu'on est passé de 13 à 10 clubs, comme tu l'expliquais, Pierre, que du coup, y a moins de matchs à retransmettre et donc moins de feuilletons, moins ce côté série Netflix chaque week-end, parce que du coup, il y a nécessairement moins de matchs et qu'on sait que le BT Sport a un petit peu tapé du poing sur la table en disant « Nous, on veut payer moins cher que ce qui avait été dealé parce que en fait, le format n'est plus le même que celui qu'il y avait quand on a passé un accord. Comment ça se passe en ce moment pour ces droits droits télé entre BT Sport et la Premiership anglaise, Charles?
Ouais, ils sont en train de négocier un deal, un nouveau accord. Mais en fait, TNT, la nouvelle chaîne, est contente avec une ligue avec 10 équipes parce que il a plus de valeur sur chaque match parce que maintenant il ne faut pas jouer sur les week-ends où ils sont des matchs internationaux.
D'accord.
Maintenant la ligue anglaise se déroule seulement sur les week-ends où les joueurs internationaux sont disponibles.
Oui, donc il y a un niveau plus important.
Oui, et c'est très très important. Et en fait, ils sont contents avec 10 équipes. Les exécutives, les dirigeants de la ligue, c'est très triste à voir 3 équipes qui ont disparu. Mais en fait, pour la longévité du rugby anglais, il y a une compréhension dans le, avec parmi les dirigeants de la Ligue anglaise qu'en fait 10 équipes peut-être seraient mieux.
Oui, oui, oui. Et comme tu le disais, c'est important parce que c'était une c'est une particularité du rugby, en tout cas français, et plus maintenant anglais, mais c'est ces doublons. Périodes de doublons où effectivement ouais. on voit nos meilleurs joueurs partir en sélection pour par exemple le tournoi Destination ou même la Coupe du Monde, parce que le début du Top 14 c'était pendant une période de alors c'était, de prépa, c'était préparation Coupe du Monde, ouais. c'était fin août. Et donc on a des week-ends où on joue, on suit nos clubs et en même temps bah les tous les meilleurs joueurs, ils vont jouer avec leur sélection et donc ils ne sont pas en club. Donc ça, effectivement, c'est peut-être l'une des solutions de ce championnat à 10 clubs. Pierre ?
Justement, oui, le championnat, tu l'as dit, finalement, cette réduction de championnat a permis d'améliorer la compétitivité et donc de finalement satisfaire les diffuseurs. Est-ce qu'il y a eu des décisions politiques ou des décisions de la part de la Ligue, de la part de la Fédération anglaise pour essayer de sortir justement le rugby anglais de cette phase un petit peu galère ?
Probablement non, en fait, parce que la fédération anglaise a du mal tout le temps à prendre des décisions. Il n'y a pas qualité de dirigeant dans la fédération anglaise. Mais avec la ligue anglaise, le dirigeant, c'est Simon Mazzitele. Il est l'équivalent de René Buscatel de la LNR. Ouais. Il est un homme très intelligent et très malin et astucieux. Il sait ce qu'il faut faire pour assurer que le rugby anglais continue à développer et continue de monter comme on a vu cette année.
Alors il y a plusieurs leviers quand on est allé un petit peu creuser avec Pierre hein, sur les solutions qui sont cherchées en tout cas pour maintenir à flot le rugby anglais. On a vu que déjà le gouvernement avait diligenté une enquête parlementaire en 2022 pour tenter de mieux contrôler l'économie du rugby anglais. Est-ce que ça, Charles, on sait où en est cette enquête ? Est-ce que des propositions ont déjà été faites pour peut-être mieux contrôler les finances, puisque tu le disais, les rugby anglais sont trop endettés aujourd'hui, c'est aussi pour ça que c'est si fragile.
Ce qui est en train de développer en fait, oui, le gouvernement a identifié des problèmes avec les finances, avec la gestion des finances des clubs anglais, et il y a eu des recommandations. C'est établi une organisation qui va identifier les problèmes dans les finances, qui va régler les finances des clubs anglais, et il y a une commissionnaire qui va garder un œil.
Ce qui existe déjà d'ailleurs en France, hein, nous on a la DNACG qui est du coup l'équivalent de ce qui est en train d'être monté en Angleterre. On a vu aussi hein, que bah voilà, en 2019 par exemple, le championnat anglais avait vendu une partie de son championnat, 27% il me semble, des parts de la Premiership anglaise à la société CVC Capital Partners pour 200 millions de livres, ce qui a permis de perfusionner quelque part, de donner un argent nécessaire au club anglais. On avait aussi qu'il y avait un fonds de soutien financé à la fois par la Fédération anglaise et la Premiership anglaise pour les joueurs et les personnels des clubs les plus touchés par cette crise. Et il me semble que c'est un montant qui a avoisiné les 150 millions d'euros. Là, je parle en euros. Voilà, il y a des leviers, on le voit, Charles. Pierre, les turbulences dont on parle depuis le début de cet épisode qui ont secoué le rugby anglais, elles se sont aussi vues sur la scène européenne hein, ces dernières années.
Et notamment entre 2020 et 2022, juste après le Covid, il y a eu deux saisons consécutives sans club anglais en demi-finale de Coupe d'Europe. C'était la première fois de l'histoire de cette compétition que ça arrivait. Et puis ça arrivait juste après une très forte domination des Saracens, puis d'Exeter, qui avait raflé 4 titres en 5 ans entre 2016 et 2020. On n'avait plus ces locomotives qui se sont succédées. Il y a eu Leicester au début des années 2000, les Wasps, les Saracens, puis Exeter. On se disait que les Anglais auraient du mal finalement à revenir sur le devant de la scène européenne. cette saison, ça va beaucoup mieux pour eux en tout cas.
Bon, alors comment on explique ça, Charles, malgré tout ce qu'on s'est dit, des clubs très endettés, l'exode de certains joueurs en top 14, et malgré ça, on a encore un rugby anglais qui est assez fort pour se hisser en demi-finale de Champions Cup, en rappelant aussi qu'en challenge européen, on a Gloucester en demi-finale. Comment t'expliques ça, toi ?
Oui, c'est très difficile. le rugby anglais a vécu une période assez orageuse, houleur. Oui. Mais maintenant, je crois que tout est en train de trouver une résolution d'être. C'est qu'il y avait plein de problèmes. Il y avait le problème avec la crise avec Saracens et leur relégation, la démotion, et ils ont été relégués à cause du salary cap, oui. C'est difficile à expliquer, mais il y avait des problèmes dans le rugby anglais et ils sont en train d'être résolus.
Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus, ces deux clubs, Northampton et Harlequins, ont un style de jeu hyper enjoué, pas calqué forcément sur le modèle de l'équipe nationale en plus, et pas dans les standards qu'on a l'habitude de voir dans le rugby anglais ces dernières années. C'est deux équipes qui jouent différemment, qui se sont un petit peu réinventées, ouais. Et ça marche pour Harlequins et pour Northampton.
Oui, on a volé le French flag.
attends.
Well, un peu de French flag, je crois. Oui, mais je crois qu'un demi-finale contre Stade Toulousain, ça va être un pont trop loin pour les Harlequins. Mm-hmm. Mais aux côtés de Northampton, ils ont prouvé que les clubs anglais peuvent disputer bien en Europe et ont démontré une puissance et un essayer. Ainsi qu'un talent artistique, parce qu'ils sont, oui, il y avait un peu de French flair contre Bordeaux, mais aussi ils ont démoli le Bordeaux dans le grand mêlée et mall de Bordeaux d'une manière que l'on n'avait jamais vue.
Alors, il y en a un autre qui n'est pas trop inquiet pour le rugby anglais, c'est le coach du Stade Toulousain, Hugo Mola, qui vendredi dernier, donc avant la demi-finale gagnée du Stade Toulousain face à Exeter, nous parlait justement des clubs anglais en Coupe d'Europe, du niveau du rugby anglais. Écoutez ce qu'il avait à dire, Hugo Mola.
On sent quand même qu'ils arrivent petit à petit à l'image de leur équipe nationale. On sent qu'ils redeviennent avec une nouvelle génération, beaucoup de joueurs, beaucoup de licenciés, beaucoup de... Donc, moi, je suis pas très inquiet pour le rugby anglais. On a passé un peu de temps avec Steve Borswick il y a quelques mois ici, qui nous a expliqué son projet. Et je trouve l'homme et le projet plutôt intéressant. Donc, je pense que les Anglais vont compter dans les mois et les années à venir. Après, le système économique a été fragilisé par à la fois le Covid en son temps, le Brexit très certainement. Après, je suis pas un économiste, donc je me garderai bien de vous analyser ça. Mais ce qui est sûr, c'est que des clubs ont explosé et que le resserrement, si vous amusez à regarder le championnat anglais, par exemple, vous avez du deuxième au huitième, 8 victoires. Donc, c'est un championnat hyper dense, hyper resserré et qui, à tout moment, après deux mauvais résultats, tu peux te retrouver au fond du tableau, même si une équipe a lâché. Donc, c'est un championnat qui est un peu élitiste au regard du nombre qu'ils sont. Ils ont réparti aussi leurs forces vives avec quand même un petit exode de quelques joueurs. On ne va pas s'en plaindre. Donc oui, il y a un climat différent, mais le rugby anglais des prochaines années, je m'inquiète pas trop pour eux.
Bon, alors on en a parlé déjà, on va pas y revenir, mais sur ce resserrement et le niveau plus disputé des matchs depuis qu'ils jouent à 10 en premiership anglaise, il y a autre chose quand même sur laquelle il faut qu'on rebondisse, c'est sur la formation anglaise. Ça, c'est ce qu'il évoque, Hugo Mola notamment.
Bien sûr, parce qu'il y a moins de budget, on l'a dit, il y a moins de stars qu'en top 14 aussi. Former des jeunes pour les Anglais, ça va devenir vital pour la survie de ces clubs anglais. Est-ce que, Charles, il y a une politique de gifle comme on a en France qui obligerait les clubs anglais à aligner un certain nombre de joueurs formés au pays? En France, on a un vivier exceptionnel. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la matière que vous avez en Angleterre sur ce point-là?
Oui, il y a des récompenses pour garder des joueurs anglais dans les clubs pour assurer. Il y a un quota et les clubs reçoivent des fonds de la fédération anglaise en ce qui concerne leur niveau de joueurs qui sont anglais et ils peuvent former au club et qui sont anglais et peuvent jouer pour l'Angleterre. Mais ce n'est pas assez strict que GIF.
Ah d'accord,
c'est pas assez strict. Ouais. Il n'y a pas, aucune équipe ne va pas perdre des points dans le tableau.
Oui, voilà, parce qu'il faut rappeler qu'en France, si on est en dessous d'une moyenne d'à peu près 16 joueurs par feuille de match sur toute une saison, on risque une sanction de points qui peut aller jusqu'à un retrait, il me semble, de 4 points de classement pour la saison d'après. Ce qui est quand même considérable. On sait qu'il y a des clubs comme Montpellier cette saison en France qui sont concernés, qui ne sont pas encore au niveau du minimum de GIF à aligner sur les feuilles de match.
Et est-ce que Charles, sur la question sur le vivier, est-ce qu'en Angleterre vous avez la matière, il y a plein de pays qui sont en vue du vivier qu'on a en France, est-ce qu'en Angleterre vous avez ces jeunes joueurs qui vont être capables de reprendre le flambeau dans le championnat et en sélection?
Oui, je crois, parce qu'ils ont l'équipe d'Angleterre, moins de 20 ans, ont remporté le Six Nations cette année. Il y a un grand groupe de jeunes anglais qui sont l'avenir, qui sont le futur du rugby anglais. Et je suis d'accord avec Hugo Mola qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter du rugby anglais en ce moment. Mais oui, il y avait des problèmes, des grands problèmes à l'époque. Mais maintenant, je crois que oui, l'avenir est clair et plein de lumière.
Charles, Pierre, quand même un mot aussi, hein, une fois qu'on a dressé tout ce tableau du rugby anglais et comme tu le dis Charles, et on l'espère aussi, même si vous êtes nos rivaux, vous êtes nos meilleurs rivaux et on espère que la lumière est au bout du tunnel évidemment. Court rappel quand même des résultats du week-end en Champions Cup et en Challenge européen. Je vais m'y coller. Déjà la Coupe des Champions, alors on a évoqué les Harlequins et cette victoire sur le fil, alors grâce, pas vraiment grâce, mais en tout cas on va dire que techniquement, oui, la transformation ratée par Maxime Lucas sur le dernier essai des Bordelais permet aux Harlequins de rester devant vraiment à la dernière minute. On a aussi la victoire, et là, elle était d'autorité du Leinster sur ses terres contre La Rochelle dans le remake des deux dernières finales de Champions Cup. 40-13 pour le Leinster, et là, on peut dire que le Stade Rochelais n'était tout simplement pas au niveau. On avait Northampton, on l'a rappelé, qui a explosé les Bulls de Pretoria, 59-22, et Toulouse, qui aussi s'est imposé d'autorité sur sa pelouse d'Ernest Vallon, 64-26. Côté challenge européen, on parlait de Gloucester, 23-13 face aux Gallois d'Ospreys. En fait, tous ont gagné à domicile. Trévise, les Italiens de Trévise ont gagné chez eux, 39-24 contre le Connacht. Clermont, ça c'est aussi la performance française du week-end, qui s'est largement imposée contre l'Ulster, 53-14. Et puis les Sharks, 36-30 face à Édimbourg. Messieurs, vous, la performance que vous avez retenue du week-end, quelle est-elle? Charles, tu es le premier, vas-y.
Harlequins. Désolé
ouais,
aux Français,
mais
ouais, mais pour moi c'était Harlequins qui sont allés à Bordeaux et ont démontré que les Anglais peuvent faire le French Flair aussi. Ouais. C'est la deuxième fois.
Match incroyable, effectivement.
Ça, ouais.
Peut-être rappeler quand même, hein, parce que l'issue était quand même moins glorieuse en France, puisque Maxime Lucu a même dû supprimer son compte Twitter après les vagues de messages insultants après sa transformation ratée. Peut-être rappeler, Pierre, comment ça s'est passé, hein, l'issue de ce dernier essai, de cette fin de match.
C'est cet essai de Madoche Tambouet qui permet au Bordelais de revenir juste à un point et qui donne à Maxime Lucu la possibilité de transformer. Il manque cette transformation. Il faut rappeler quand même la performance XXL de Maxime Lucu avant cette transformation, où il a démarré en numéro 9, il est passé en numéro 10 à la mi-temps et il a sorti une deuxième mi-temps de très très haut niveau avec un essai marqué notamment en emmenant derrière lui toute l'équipe de l'UBB. Et là, cette dernière transformation malheureuse, mais c'est vrai que les réactions ont été totalement excessives et l'ont poussé, en effet, tu l'as dit, à désactiver son compte Twitter dans la foulée.
Pierre, toi, tu retiens la performance de Northampton.
Exactement, la performance de Northampton avec une maîtrise complète face aux Bulls, 9 essais marqués face à une équipe totalement remaniée sud-africaine. Ça a beaucoup fait parler, cette composition des Bulls, sans énormément de leur cadre. Mais les Saints, de leur côté, ils continuent leur sans faute dans la compète. Ils ont battu Glasgow, Toulon, Bayonne, le Munster deux fois en poule et en huitième, et donc désormais les Bulls. Cette équipe, elle s'articule autour de leur demi-mêlée Alex Mitchell et de Courtney Lowes, notamment le deuxième ligne international anglais, et puis d'une toute nouvelle génération d'internationaux anglais, Finn Smith, Tommy Freeman, Fraser Dingwall. C'est Queens, est-ce que tu penses, Charles, qu'ils sont capables d'aller faire un exploit du côté du Leinster? Ça va être compliqué quand même.
Oui, malheureusement, non. En fait, oui, je crois que Leinster va gagner le tournoi, je crois. Mais ça ne va pas être facile pour eux contre Northampton parce que Northampton c'est une très belle équipe en ce moment. Et comme t'as dit Pierre, il y a une nouvelle génération de jeunes anglais qui ont explosé cette saison. Mais je crois que la puissance de Leinster et la profondeur de leur effectif, ça va être un défi trop dur pour Northampton. Bon, comme Harlequins à
ouais.
Toulouse, je dirais.
Oui. Mais justement, pour parler de Toulouse, parce que c'était aussi l'une des performances de ce week-end, hein, c'est celle des Toulousains. Alors, ils ont été très indisciplinés en première mi-temps. Ils ont laissé croire aux Exeter Chiefs à peut-être un exploit sur la pelouse d'Ernest Vallon. Mais derrière, en seconde période, ils nous ont juste montré à quel point cette année, Toulouse survole, que ce soit la Coupe d'Europe ou le championnat, même s'ils ne sont pas leader hein, de top 14, c'est le Stade français qui est en tête pour l'instant. Mais voilà, à l'image de certaines performances, on pense évidemment à l'anglais Jack Willis qu'on évoquait tout à l'heure, qui a été énorme sur ce match, qui a quand même battu 10 défenseurs. Il a parcouru ballon en main 98 mètres. C'est celui qui a été certainement le plus dangereux offensivement. Mais évidemment, on se souvient aussi des performances à peu près de toute l'équipe. Mais allez, pour ne citer que, on pense à Pitaki, on pense à Blair Kinghorn.
Paul Cost, homme du match,
Antoine Dupont toujours dans ses classiques mais qui est toujours excellent. Voilà, ils ont un effectif qui leur permet évidemment de prétendre au sommet, même si tu le dis, ce sera pas une mince affaire face au Leinster, c'est surtout que ce n'est pas le même rugby. C'est-à-dire que là, on était finalement, Exeter leur ont laissé dérouler le rugby à la Toulousaine, dans lequel ils sont très à l'aise. Qu'est-ce que ce serait si final il y avait à Tottenham face au Leinster le 25 mai prochain, ce serait pas du tout le même style de rugby. Mais ce serait un rude combat.
C'est sûr, ça va être beaucoup plus combattu. Juste pour finir sur ces quarts de finale, faut noter qu'on a eu quand même 4 affiches magnifiques avec 3 matchs avec plus de 80 points marqués. C'était assez incroyable. L'UBB a battu le record de points. L'UBB et Harlequins ont battu le record de points, battu dans la foulée tout de suite par le Stade Toulousain, etc. Oui. C'était un week-end très très prolifique.
Champagne,
exactement.
Bon, thank you Charles. Thank you very much, journaliste au Daily Telegraph, pour ton expertise. Merci à notre porteur d'eau préféré, Pierre Thévenet, et à Najib Boulaouine pour la production. Merci à Charline Fina pour la réalisation de cet épisode. Retour du top 14 ce week-end avec des enjeux à tous les étages. Et on n'oublie pas nos rugby women tricolores qui ont rendez-vous à Cardiff dimanche pour la 4e journée du tournoi des 6 nations. Avant, on l'espère, la finale contre nos rivales anglaises. On y revient toujours, hein, l'Angleterre. Bon, en attendant, prenez soin de vous, étirez-vous bien et surtout, on va pas laisser à l'Angleterre le dernier mot parce que c'est Renaud qui va nous chanter la chanson Toujours vivant, toujours debout, même si on pense à vous les Anglais.
Toujours vivant, assurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, l'idiot qui voudrait nous remplacer.